Monsieur Truchon, nous voici donc rendus à étudier la sixième béatitude, la béatitude des cœurs purs. Je pense que nous aurons l'occasion de découvrir pourquoi vous semblez avoir une véritable prédilection pour cette béatitude en particulier. Alors, comme d'habitude, on pourrait se situer dans le contexte et expliquer l'expression « cœur pur ». Qu'est-ce qu'on entend par le mot « cœur » ?
Oui, on en voit, comme dans chaque béatitude, d'habitude, on passe par trois étapes, pas nécessairement successives là, dans l'ordre, mais quand même. Alors, les mots que signifie la béatitude, ensuite, la chose elle-même, c'est-à-dire ce dont on parle, et finalement, son fonctionnement. Aujourd'hui, j'aimerais encore, parce que je le fais souvent aussi, une certaine introduction générale à cette béatitude.
D'accord.
Et pour la situer dans son ensemble et à travers les autres, et aussi peut-être commencer explicitement là, à passer par les trois éléments qui la constituent. Alors, cette béatitude d'abord a une histoire personnelle, c'est bien sûr, et pour raison. Il y a une raison d'être à ça, c'est qu'au fond, c'est la béatitude du moi, c'est la béatitude de la personne. Un jour, les béatitudes m'ont intéressé, mais pas assez pour en faire un cours. Mais quand, à un moment donné, c'est par la béatitude du cœur pur que s'est fait le choc.
C'est là que tout a commencé.
C'est là que tout a vraiment recommencé d'une façon extraordinaire. Et là, j'ai décidé de faire un cours là-dessus après 2 ans de réflexion. Et ensuite est venu un cours sur les paraboles. Mais c'est toute la béatitude des cœurs purs qui a fait le déclencheur de tout ça. Cette béatitude-là, c'est quoi? C'est la béatitude du voyage de noces. C'est la béatitude de la fête de la lumière qui se produit en nous. C'est la béatitude des contemplatifs. C'est la béatitude qui va rendre l'homme sensuel de Dieu, qui va le faire jouir de Dieu. C'est la béatitude fondamentale des moines. Et c'est pour ça que j'aime à dire que je suis un moine marié en ville. Ça a l'air contradictoire, mais c'est vrai que j'ai une solitude avec Dieu profonde qui, lorsque j'ai été au monastère, a été travaillé par les structures qu'il y avait là et par la grâce aussi, mais que ça, c'est resté. Et en fait, moi, j'ai comme trois femmes, Dieu d'abord, ensuite l'Église, puis finalement la femme que j'ai mariée. Mais en tout ça, c'est toujours Dieu qui est le plus important. Et ma femme est au courant de ça, elle accepte ça, parce qu'au fond, il se produit peut-être la même chose en elle. Alors, c'est un jour, je me suis vraiment garoché en Dieu, corps et âme. Je l'ai fait en diverses occasions, je le fais encore souvent, mais à un moment donné, je l'ai fait d'une façon tellement, je dirais, fondamentale, à un certain moment, même un peu désespéré, et ça a été la béatitude des cœurs pauvres, tout ça. Mais au moment donné, c'est le cœur pur qui gagne, et là, c'est le fondement. Alors, si on pouvait commencer une pédagogie de la foi, c'est d'être séduit par Dieu, c'est d'être gagné par Dieu, c'est d'être fasciné par Dieu, c'est d'être intéressé par Dieu. Et c'est là que vraiment tout recommence ou tout commence à fond. Et c'est avec raison aussi, parce que c'est la béatitude du premier article du Credo. Et s'il n'y a pas de premier article du credo, ben, il n'y en aura pas d'autre. Hein? Alors, on a deux credos, un qui a 14 articles, d'autres 16. Mais ces articles de foi-là, qui sont des vérités, sont d'abord des événements. Et le premier événement, au fond, c'est de devenir au monde soi-même, c'est d'exister. Ça n'a pas l'air évident, c'est-à-dire qu'on vient au monde à telle date, à telle année. Oui, mais venir vraiment au monde, c'est-à-dire être engendré soi-même, par soi-même, dans la grâce, là. De se prendre en main et finalement de se découvrir fondamentalement dans son être même. Parce que la psychologie peut nous dire nos fonctionnements, et c'est intéressant, la sociologie aussi comme groupe, mais qui sommes-nous? Qui suis-je, moi, Raymond Truchon? Je l'ai appris par cette béatitude, et ça a été le choc. Et vraiment, c'est un voyage de noces. Et le voyage de noces, cette fois-là, il est sans retour. Il n'y a pas de billet aller-retour. D'habitude, quand on se marie, on prend un billet aller-retour. Il faut revenir au travail. Non, moi, je suis pris un billet aller et je suis encore dans l'aller.
Et on est constamment en voyage de noces, alors. On n'en revient pas.
Profondément, oui.
On n'en revient pas
de ça. Et j'étais encore marqué par ça. Et ça me rend heureux chaque jour, toujours plus. C'est la fête de la lumière. Encore ce matin, là, j'ai eu une prise de conscience en me réveillant, là, qui a été non seulement libératrice, mais encore là, chaleureuse, quoi. Dieu est un être extrêmement chaleureux.
Est-ce que tout ça, ça va vous permettre de nous expliquer le sens du mot cœur?
Oui, puis surtout de voir que c'est possible pour chacun, ça. Alors moi, je vais parler de moi peut-être un peu plus dans cette béatitude, mais ça fait partie de la béatitude, c'est la béatitude du témoignage. Mais en fait, ce que je vais dire, c'est pas d'essayer de transmettre mon expérience. On sait que l'expérience, ça se transmet pas, ce qui serait bien utile des fois, mais de transmettre les principes et le fonctionnement qui, lui, peut se transmettre et que, en fait, il peut nous engendrer ou nous favoriser dans cette béatitude qui, encore une fois, est la béatitude fondamentale.
Ce que vous dites, c'est qu'elle est encore plus personnelle que les autres.
C'est une béatitude personnelle, c'est une béatitude personnalisante. Moi, quand je suis venu au monde en 1932, c'est certain que je suis venu au monde dans une société totalement catholique, quasiment. Celui qui était dans la marge, c'était le non-pratiquant. Toutes nos rues étaient baptisées. On avait des patates frites quasiment chrétiennes. Moi, avant de faire des mathématiques à l'âge de 7 ans, on faisait un chapelet, un plancher de boulot, un quart d'heure de temps, comme s'il y avait eu des mathématiques chrétiennes. On avait les syndicats catholiques. Toutes nos rues sont encore baptisées, d'ailleurs, pour la plupart. Mais maintenant, notre problème québécois, pour un certain temps, c'est de trouver les chrétiens. Alors, les rues sont là, mais les chrétiens, ils sont où? Et les religieux aussi, la vocation religieuse, la vocation monastique, la vocation contemplative, la vocation missionnaire, tout ça, là, c'est quoi? C'est quoi un prêtre? C'est quoi ci? C'est quoi ça? Faut retrouver ça. Faut retrouver une définition. Alors, nous sommes passés d'une société religieuse à une société laïque, ce qui est bien, mais le cœur de l'homme est religieux. Alors, il faut retrouver ça, mais d'une façon personnalisée. Avant, on allait à la messe, tout le monde y allait, on achetait une cravate, le gars qui nous la vendait, voyait bien si on était à la messe le dimanche, c'était le gros village, c'était... Mais maintenant, personne, dans le bloc appartement, on ne sait pas si on va à la messe. Si on y va, c'est par soi-même, on n'y va pas. Alors, c'est tout un gros changement. Par contre, c'est une occasion fantastique pour devenir prophète chrétien dans le sens profond du mot, c'est-à-dire personnel. Au fond, le dessein de Dieu, c'est de faire de nous un laboratoire où il va manifester ses merveilles.
Alors, est-ce que vous pouvez nous le définir, le cœur, au sens de la béatitude?
Bon, alors le cœur. D'abord, le cœur, c'est ce qui est à l'origine du « moi », de mon « je ». Alors, le « moi », là, évidemment, j'extrapole la Bible terriblement, tout ça est pas textuel, mais quand même, justement, il y a une appropriation. Alors, le cœur, c'est l'origine de mon « je ». Le « je », c'est ce qui me fabrique, c'est ce qui fait que je me fabrique moi-même. Mais avant de me fabriquer, je me reçois d'une façon d'abord inconsciente, en étant bébé, avec toutes les forces qui me sont données. Au fond, on vient d'abord au monde avec tout ce que les autres nous donnent. Mais il faut fabriquer quelqu'un avec ça. Et c'est le « je » qui va faire ça. Alors, le cœur, selon la Bible, c'est l'origine du « je », c'est-à-dire de ce qui va pouvoir fabriquer tout ça, qui est à dire moi, Raymond Truchon. Comme là, par exemple, Raymond Truchon, nous étions 15 en famille. Quand on criait « Truchon », personne ne se levait. Parce que Truchon, c'est qui? On ne le sait pas. Alors, Truchon, c'est déjà quelque chose, mais quand on criait « Raymond », là, je me levais. Alors, le « moi », c'est ce qui est le plus personnel. Par exemple, moi, je suis Raymond Truchon, chicoutimien, québécois, canadien, américain du Nord, galaxie Nord supérieure. Alors, c'est toujours, c'est mon identité, puis terrien, là, évidemment. Alors, mais sans le « moi », là, tout ça, là, c'est du pur fonctionnement. C'est le « moi » qui est le cœur de tout ça, qui va permettre que tout ça prenne un sens.
Alors, votre cœur, c'est votre identité, c'est votre cœur.
Finalement, oui. Et il va se fabriquer dans le cœur d'un autre. Alors, je redis encore la chose fondamentale, nous venons au monde par un autre, nous venons au monde pour un autre. Entre les deux, il y a le « moi ». Et dans le « moi », il y a le « je ».
Chers amis, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Galilée. Nous étudions les béatitudes en compagnie de Monsieur Raymond Truchant, cette semaine, la sixième béatitude. Monsieur Truchant, nous en sommes donc à définir les termes de la béatitude. Nous avons parlé des cœurs. Est-ce qu'on peut préciser davantage de quoi il s'agit quand on parle d'un cœur pur?
Oui, là arrive le lien là, ou le joint entre cœur pur. Puis ensuite, le deuxième bloc, comme dans toute béatitude, verront Dieu. Alors, le joint, c'est par l'opération vérité. Alors, l'opération vérité, c'est quoi ça? C'est une prise de conscience à cœur ouvert, avec une personne en qui on a confiance et avec qui on peut dire des choses sur soi-même. Parce qu'on peut passer notre vie en dehors de soi et ne jamais se rencontrer.
Je vous arrête tout de suite. Comment est-ce que vous associez la vérité à la pureté?
Bon, parce que la vérité, c'est comme la pureté, c'est d'être soi-même. La vérité, c'est quoi? Par exemple, toujours selon la Bible, par exemple, est-ce qu'un mur peut être vrai? Oui, si l'apparence correspond à la nature du mur. Mettons qu'il a l'air en plâtre, puis est en acier, il n'est pas pur. Mettons qu'il a l'air en acier, puis est en plâtre, il n'est pas pur. Il est pur s'il est en plâtre, puis il a l'air du plâtre.
Mais dans ce cas-ci, on ne parle pas de la matière, évidemment.
On en parle aussi, mais on parle surtout de l'homme. Alors, dans l'homme, la pureté, c'est la cohérence toujours plus parfaite entre l'intériorité puis l'extériorité. C'est-à-dire ce que la personne est en dedans, puis ensuite ce qu'elle paraît être, ou ce qu'elle dit être, ou ce qu'elle agit dans ce qu'elle est, ou non dans ce qu'elle est. Alors, à ce moment-là, ça peut être la contradiction. Donc là, elle est impure.
Autrement dit, l'apparence doit correspondre à l'essence.
Exact. Parce que c'est toute la béatitude de la communication, parce qu'il n'y aura pas de communication s'il y a une contradiction entre ce qui est exprimé et ce qui est vécu en dedans.
Et quand c'est le cas, on accède à la pureté, en somme.
On est dedans. Oui, on y accède dans notre être, mais on est déjà dans le cœur. Mais on va étudier tout ça, bien sûr. Là, on fait juste commencer. Alors, la pureté, au fond, selon la Bible, pour l'homme, c'est d'être soi-même. Alors, évidemment, encore là, l'être le plus soi-même, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu, parce qu'il est totalement authentique. Il est exactement ce qu'il dit être quand il engendre son fils, et il est exactement ce qu'il paraît être quand il l'aime, et le fils le redécouvre en lui totalement, et il peut aller vers lui totalement parce qu'il a bien compris, il l'a bien connu tel qu'il était, et tout ça, au fond, ça fait spirer, comme on dit en théologie, l'Esprit Saint, c'est-à-dire que ça produit l'Esprit Saint de l'un par l'autre, et de l'un dans l'autre, et de l'un pour l'autre. Et l'Esprit Saint lui-même devient quelqu'un qui lui aussi est vrai et pur, c'est-à-dire qu'il est le lien parfait entre le Père et le Fils dans leur connaissance et l'amour. Au fond, c'est la béatitude de la connaissance exacte de ce que nous sommes, c'est-à-dire, comme nous le verrons tantôt, une merveille extraordinaire et que nous avons à devenir et que nous sommes déjà en germe. Et ensuite, ce qui engendre la contemplation, parce que ça, c'est toute la béatitude qui nous permet de voir Dieu en toutes choses. Et ça, c'est le bonheur, c'est le bonheur.
Alors, j'en arrive à la deuxième partie de la béatitude. À mon avis, elle est un petit peu moins évidente que la première au sens de la définition. Qu'est-ce qu'on entend par « ils verront Dieu » Est-ce que ça veut dire aller au ciel après la mort Est-ce que ça veut dire bénéficier de l'appui de Dieu ici-bas On veut certainement pas dire de voir Dieu au sens corporel ou physique.
Bon, alors, déjà, on voit qu'il y a deux sens fondamentaux à « verront Dieu ». Il y en a un qu'on verra face à face, alors qu'actuellement, nous le voyons dans des figures, dans des images.
Quand vous dites face à face, vous voulez dire dans l'eschatologie.
Exact. Dans notre eschatologie personnelle et dans notre eschatologie collective, quand nous mourrons personnellement et quand aussi nous mourrons tous, nous pourrons voir Dieu face à face et, comme dit saint Paul, le connaître comme nous sommes connus en lui.
Mais il y en a aussi une autre façon de le voir.
Actuellement?
Oui, c'est ce que
j'ai dit. Oui, dans des figures, des images, mais à ce moment-là, pour le voir, il faudra rejoindre l'image de Dieu en nous, parce que l'organe de la connaissance, c'est le cœur. Et ce qui fabrique la puissance de connaissance du cœur, c'est l'expérience. Alors, plus nous ferons l'expérience de Dieu, plus nous nous connaîtrons nous-mêmes, plus en nous-mêmes nous connaîtrons Dieu de par les fruits qu'il produit en nous, plus nous deviendrons nous-mêmes, et plus nous pourrons aussi entrer en relation exacte avec les autres, leur permettre aussi d'être eux-mêmes. Alors, vous voyez tout l'aboutissement du même dans le même, qui finalement nous fait joindre le gros même, le gros « je » qui est Dieu. Parce que Dieu, lui, c'est l'être pur, parfait. Et en lui et par lui, nous pouvons devenir purs encore, c'est-à-dire réaliser le grand dessein qu'il avait sur nous depuis toute l'éternité.
Vous dites qu'en général, le cœur de l'homme et de la femme, j'espère, désigne toute sa personnalité consciente, intelligente et libre. Ça me paraît donc tout de suite évident dans ce cas que personne ne saurait avoir le même cœur puisque la personnalité est en cause. Alors, tout le monde est différent.
Absolument. Dans le christianisme, chaque personne est encore bien plus identifiée qu'un brin d'herbe comme étant unique au monde. Alors, chaque personne, en au fond, est un aspect du visage infini du Christ. Et chaque personne nous permet de connaître Dieu. Et quand je me prive d'une relation avec une personne, je me prive d'un moyen et d'un chemin de connaître Dieu. Donc, c'est un peu comme les doigts de la main. Si je coupe une relation avec quelqu'un, je viens de me couper un doigt pour prendre Dieu ou pour être pris par Dieu ou pour être guidé par Dieu. Chaque homme, on l'avait dit depuis l'émission, puis on le dit souvent, que chaque homme est un être possible de révélation de Dieu. Ben, c'est ça, le cœur pur va permettre cette révélation de devenir un visage de Dieu. Mais voir Dieu, c'est d'être heureux parce que c'est la réalisation de toutes nos puissances, la libération de notre intelligence qui est faite pour connaître l'être aimé. Alors, quand l'être aimé est infini et que nous en sommes l'image, et par participation et par grâce, nous sommes en présence continuelle de Dieu et pouvons le voir en toute chose, ce qui est la béatitude. Dans un processus terrestre, évidemment, qui est progressif, là, et lent, faut, en soulignant le mot lent, mais quand même réel. Alors, nous allons à un moment donné expliquer un peu plus ça.
La pureté dont il est question, la vérité dont il est question, elle signifie aussi fidélité, absence de trahison, fidélité au plan de Dieu pour soi. Quelquefois, ça me paraît plus facile d'expliquer certains concepts par la négative. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple d'un cœur impur?
Ah oui, ça me tentait tantôt de le faire d'ailleurs. D'abord, je donnerai l'exemple d'un cœur pur parce que j'aime mieux le positif, parce que cette béatitude-là, c'est d'abord ce que nous sommes. Or, ce que nous sommes pas d'abord impurs dans la nature et dans notre plan et dans le plan de Dieu, nous sommes purs. Évidemment, nous accédons à l'impureté assez rapidement. Alors, pour le dire tout de suite, l'être parfaitement pur seul, c'est Dieu. Mais par participation, c'est la Vierge qui est le symbole de la pureté totale. Alors, non seulement ça comprend l'homme, mais la femme, parce que c'est elle qui est première dans la réalisation du dessein de Dieu. C'est la femme, c'est la Vierge. La Vierge Mère, va sans dire, et Mère du Christ, qui est la source même de sa pureté à elle, par l'Esprit Saint qui l'a engendrée en elle. Alors, mais quand on dit amour, on dit pureté, on dit vérité, on dit fidélité. Alors, c'est évident que nous autres, nous connaissons beaucoup plus, à certains moments, l'infidélité que la fidélité. Mais la pureté, c'est la fidélité. Mais comme encore disait Françoise Dolteau, la psychanalyste, quand on règle nos problèmes d'Édipe, on n'est même plus capable d'être infidèle. Et quand on devient de plus en plus amoureux de Dieu et amoureux de soi, nous faisons toujours de plus en plus mal le péché. Et au moment donné, il nous intéresse à peu près plus. Alors, c'est le processus, en fait, du voyage de noces, c'est-à-dire quand on est bien marié et qu'on est heureux, je me demanderais pourquoi qu'on irait ailleurs.
Ce soir, mon invité est M. Raymond Truchon. C'est mon invité permanent pour l'année radiophonique. Nous étudions les béatitudes et ce soir, la sixième béatitude. M. Truchon, vous m'avez paru un petit peu hésitant à nous donner des exemples du cœur impur. Je reviens sur la question à savoir si, selon vous, nous sommes nés impurs ou nous sommes nés purs. Dans quel sens s'opère la métamorphose?
Oui, la métamorphose, nous naissons purs, bien qu'avec des tendances, comme on dit, originelles, c'est-à-dire universelles, qui sont nées d'un premier couple, OK, là, on n'étudiera pas ça dans le détail, mais c'est certain que quand Jésus dit, le Père céleste, les anges voient le visage du Père dans le cœur des, en voyant les enfants, c'est parce que les enfants reflètent Dieu, et Jésus bénissait les enfants, il les exorcisait pas, il les bénissait parce qu'il représentait Dieu, et il se voyait, il voyait Dieu dans ses enfants-là. Mais Jésus lui-même n'a pas craint de décrire parfaitement l'impureté. Alors nous allons le faire aussi. Alors, par exemple, dans le chapitre 5 de Saint Marc, nous avons le possédé de Gérasa. Nous allons avoir là le l'impur parfait. Alors, qu'est-ce que c'est que cet homme-là, le possédé de Gérasa? C'est un homme qui en fait, est dans un cimetière. Il est déshabillé. Il crie. Il n'est plus capable de parler. Il n'est plus capable de reconnaître les gens. Il n'est plus capable de rester habillé. Puis il se fouette avec une chaîne essayant de se mutiler, c'est-à-dire de se mutiler à mort, c'est-à-dire de se détruire. Alors, l'impureté, c'est quoi? C'est l'opposition, presque, je dirais, totale. C'est l'opposition en toutes nos puissances. Par exemple, dire ce qu'on pense pas, penser ce qu'on dit pas, faire ce qu'on pense pas, penser ce qu'on fait pas. C'est tout l'inverse, dire le contraire de ce qu'on pense. De telle sorte qu'à un moment donné, c'est non seulement spaghetti, là, tout mêlé, mais à un moment donné, c'est totalement contradictoire. Et la communication n'est plus possible sous aucun rapport. On dit « t'es qui, toi? » On ne sait pas du tout. Parce que la personne ajoute toujours des rôles et elle parle jamais d'elle-même. Et pour un prédicateur et pour un témoin de Jésus, ben c'est de valeur. Parce que toute la pédagogie de la foi va fonctionner par le témoignage, c'est-à-dire par laisser passer en nous une parole de Dieu qui est vécue. Pas nécessairement dire ce qu'on fait de bien puis ce qu'on réussit formidable, là. C'est pas ça, c'est d'échanger les fruits de l'esprit, dont le premier est la miséricorde. Parce qu'il n'y aura pas de cœur pur sans miséricorde. Alors Jésus a vu cet homme se posséder de Gérasa, et son père était découragé de cet enfant-là, et il était quasiment plus capable de l'empêcher de se tuer. Fait qu'il va voir Jésus, puis Jésus dit, ok, on va le guérir, alors il arrive, puis il guérit le possédé de Gérasa. Alors le type devient calme, il est capable d'être habillé, il reconnaît son père et sa mère. Alors c'est quoi les... Et il peut retourner en ville. Alors c'est... Parce que tous les moines ont d'abord été au désert parce qu'ils ne trouvaient plus en ville. Alors l'idéal, c'est de retrouver Dieu en ville sur le trottoir, c'est bien évident. Alors moi, je me plais à dire un moine marié en ville. Alors le possédé de Gérasa, qu'est-ce qui se passe là-dedans au fond? C'est de retrouver une communication vraie avec quelqu'un. Deuxièmement, d'être calme. Troisièmement, d'être capable de vivre dans des structures sans perdre la carte, d'être habillé, pas toujours chercher à se déshabiller, d'être capable d'être habillé, d'être bien habillé. Ensuite, d'être capable d'avoir des relations avec les autres, puis de les comprendre, puis de se faire comprendre. Ensuite, ben, de vivre en société. Alors, ce sont tous les fruits de la pureté qui, au fond, pas tous les fruits, mais disons les dimensions fondamentales de la pureté. Mais la communication était la principale et finalement la jouissance d'être ensemble.
Monsieur Truchard, j'ai une question précisément à ce sujet-là des contradictions en soi. Vous écrivez « Mon Dieu, fais que je sois oui et que je fasse oui, que je dise non et que ce soit non ». Comme elle est vraie, cette prière, Monsieur Truchon, mais pourquoi est-ce que c'est si difficile de toujours donner suite à nos bonnes intentions, c'est-à-dire de vraiment faire le bien qu'on s'est proposé et de ne pas faire le mal qu'on s'est interdit?
Alors, un jour, j'avais lu un livre là, sur la fuite, l'éloge de la fuite d'un biologiste là, qui était un grand génie, mais qui comparait l'homme à comme un animal social, un peu un rat avorté. Parce que l'homme est encore habité par le premier réseau, le premier plancher de son cerveau, là, la cave, qui est le dinosaure, c'est-à-dire la colère, et en plus la culpabilité. C'est qu'au fond, là, la plupart du temps, on n'est exactement pas à la place où on devrait être. C'est la fuite. Alors, on nous demande d'être à telle place. Bon, OK, ça nous intéresse, mais on a bien trop peur. Alors, on va ailleurs. Alors, on va toujours ailleurs, on est toujours ailleurs. Et l'ailleurs, c'est toujours dehors, ça. Alors, finalement, c'est qu'à un moment donné, on devient... on devient double. Bon, vous donner un exemple. Mettons que vous avez un enfant de 4 ans, vous arrivez à la maison, puis il y a une vitre de la cave qui est cassée. Bon, vous allez dire, ben c'est Robert, t'as cassé la vitre. Il va dire, non, non, papa, parce qu'il a peur. Mais parce qu'il est trop jeune pour mentir comme faux, on va dire, avec quoi tu l'as cassé? Il va dire, avec un marteau. Ben, s'il avait gardé sa confiance, là, ben, il aurait dit, papa, j'ai cassé la vitre. Ben, il aurait dit, OK, on va reparer. Le marteau, ça va pas dans une vitre, ça va sur un clou. Alors, un autre exemple, par exemple, au niveau social. Mettons que j'arrive puis je dis devant mon enfant, le voisin, c'est un écœurant. Évidemment, je ferai jamais ça devant le voisin. Moi, je ferais pas, je suis pas fou. Ce serait plus vivable. Alors, ce que je vais faire, je vais le dire quand le voisin est pas là. Mais si le voisin arrive chez nous, hein, là, mon petit gars, il va dire, t'es écœurant. Il va dire ça au voisin. Le voisin, tu comment, toi? Puis moi, je vais dire, hey, tu dis là. Mais toi, tu l'as dit, papa. Autrement dit, lui, le jeune qui est pur, ce qui est dit, c'est dit. Devant qui, ça n'a pas d'importance. Alors, mais à un moment donné, on perd cette faveur, on perd cette qualité d'être un, et on devient divisé, on devient double. Et là arrivent les problèmes de toutes sortes, et c'est le contraire du dessein de Dieu qui était notre unité. Alors, travailler à notre unité, d'abord y trouver goût, et c'est toute une conversion. Et c'est là la béatitude du cœur pur que je voudrais maintenant décrire un peu le fonctionnement, quitte à la reprendre dans une autre session, parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages là-dedans.
Bon, justement, je regarde le temps qui passe et avant de terminer ce soir, j'ai une petite intervention que vous allez peut-être aimer. J'aimerais vous citer une nouvelle béatitude. Je vous explique. Il s'agit d'une classe de cinquième année à laquelle on a demandé d'écrire, d'inventer une nouvelle béatitude. Je me permets donc de vous en citer une qui m'a été rapportée par Marie-Andrée Brassard, qui est collaboratrice à Radio-Galilée. Bienheureux ceux qui se sentent fragiles comme des feuilles de papier, Dieu les recyclera. J'aimerais entendre un petit commentaire de votre part là-dessus avant de terminer ce soir.
Oui, je trouve ça beau. Non seulement les recyclera, mais réécrira dessus. Et même si les lignes sont croches, l'écriture de Dieu sera droite, comme disait quelqu'un, c'est que, évidemment, plus nous nous ouvrons à Dieu, plus nous acceptons son plan, plus nous le recherchons, parce que lui est la lumière, eh bien, l'écriture sera fantastique.
Monsieur Truchon, je vous remercie. Nous allons devoir terminer ce soir. Nous reprendrons la semaine prochaine encore avec la merveilleuse béatitude des cœurs purs.